Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On se retrouve pour notre numéro de la Côte Immo où aujourd'hui on va examiner les tendances du marché pour explorer un petit peu dans, on va dire, la jungle immobilière ou dans les villes. Est-ce que les projets immobiliers sont toujours aussi bankable à la lumière de ce qui est en train de se produire? Tout Immo, tout écho. On va recevoir aujourd'hui deux personnes qui vont nous partager leur expertise. Tout d'abord Maëlle Bernier qui est porte-parole de Meilleur Taux et enfin Thierry Delsal, qui est notaire à Paris et président de la commission conjoncture immobilière à la Chambre des notaires de Paris, avec qui nous examinerons les résultats immobiliers des ventes au premier semestre 2022. Accès au crédit, du durcissement des taux, injonction du HCSF, pandémie mondiale, une guerre en Europe, le retour en force de l'inflation impacte l'ensemble de l'économie, en particulier l'immobilier, bien sûr, qu'on dit quand l'immobilier va, tout va. L'inflation est à plus de 5%. Est-ce qu'il est pertinent encore d'acheter? Les taux d'intérêt remontent en flèche et les prix de l'immobilier sont toujours aussi hauts à l'heure où le pouvoir d'achat des Français est en berne. Peut-on encore réaliser son projet immobilier, toujours accompagné de mon complice du jour, Nicolas Panier.
Bonjour Sylvain, et oui, on va décrypter tout cela, des sujets taux, des sujets niveau de prix immobilier, et on commence tout de suite dans Tendance Immo. Et donc, dans Tendance Immo, nous allons commencer par décrypter, j'ai envie de dire, la première étape quand on veut se lancer sur dans un achat immobilier, c'est le financement. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de la Côte Immo, Maëlle Bernier, porte-parole de Meilleur Taux. Bonjour Maëlle Bernier.
Bonjour.
Une seule question, finalement, qui va nous durer, à mon avis, pendant toute l'émission. Les taux de financement de crédit immobilier remontent-ils? Est-ce que vous constatez qu'ils remontent? Et est-ce qu'ils remontent beaucoup, Maëlle Bernier?
Ils remontent, ils ont beaucoup remonté, c'est pas terminé. On est passé en moyenne de 1,10 au mois de janvier à 1,70 en juin sur 20 ans. C'est des taux qui évidemment, 60 points de base en 6 mois, c'est très très rapide.
Bien sûr, c'est rapide, ouais.
C'est généralisé, c'est pour l'ensemble des profils, c'est pas que les profils les plus précaires. Et puis surtout, c'est certainement pas terminé, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'en face, vous avez des banques qui, même avec la meilleure volonté du monde, empruntent en fait elles-mêmes à 1,70. Donc, normalement, il y a un ratio. Quand une banque emprunte à 1,70, par exemple, vous rajoutez 100 points de base, puis vous avez le taux du crédit immobilier perso. Quoi.
Et donc, là, l'équation ne marche pas.
Donc, vous voyez, ça ne marche pas. Là. Donc là, on n'y est pas du tout. Et puis, on a en face...
On n'y est pas, ça veut dire qu'elles ne refont pas des crédits suffisamment chers
pour être rentables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, elles ne gagnent pas d'argent du tout là-dessus. Et c'est pour ça que d'ailleurs, même certaines freinent en disant on attend parce que pour l'instant, on ne gagne pas d'argent du tout.
Il y a des banques qui freinent aujourd'hui.
Il y a des banques qui freinent ou qui choisissent différents canaux de distribution, mais qui en tout cas affinent vraiment leur offre parce qu'elles ne gagnent pas du tout d'argent. Donc. C'est pas une ONG, hein.
Parce que, bon, vous suivez ça de très près. Quand on regarde ça d'un petit peu plus loin, on voit effectivement de 1,10 à 1,70, le jour où ça atteindra 2, on pourra dire qu'on a doublé le niveau de taux de crédit immobilier. Pour autant, on a l'impression qu'on reste sur des niveaux très bas. Est-ce que ça remet en cause des projets aujourd'hui?
Alors, c'est vrai qu'on est sur des niveaux très très bas. En plus, on a en face une inflation à plus de 5, donc mathématiquement, la donnée est plutôt positive. Le problème, c'est que, par exemple, ce passage de 1,10 à 1,70, si vous voulez, pour un couple qui va gagner 3000 euros, dans un cas, il va emprunter 200 au début du mois de janvier. Aujourd'hui, il n'emprunte plus que 190.
D'accord. Ouais.
Donc, s'il n'a pas les 10 000 pour compenser, on va dire, le manque à emprunter, ça passera pas. S'il a de l'épargne, ça va passer. Enfin, vous voyez, donc, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez plein de projets sur le terrain qui sont bloqués pour 10, 15 000 euros. Évidemment, souvent les plus jeunes, parce que c'est eux qui n'ont pas d'épargne. Mmh. Et même si, vous avez raison de le dire, la situation reste quand même hyper
favorable. Et même si on a un peu d'épargne, parce que là, actuellement, on l'a vu, le taux d'usure, qui est un taux réglementé, auquel on ne peut pas soustraire, n'est pas du tout adapté à la situation. Alors, on est tous d'accord qu'il va être relevé normalement au 1er juillet.
Il va être relevé au 1er juillet parce qu'il y a un effet retard. On regarde toujours les taux des 3 mois qui ont précédé. Sauf que si en parallèle, les taux des crédits immobiliers, ce qui sera certainement le cas, continuent d'augmenter en juillet-août, on aura toujours ce décalage. Le vrai problème de l'usure, c'est que c'est une formule qui a été créée quand on avait des taux à plus de 5. Mmh. Or, quand vous ajoutez une marge de 30% à un taux de 5, sans être très très doué en maths, on voit bien que si on ajoute une marge de 30% à 1,5, ça ne fait pas la même chose.
Ça ne donnera pas plus d'air aux investisseurs, ou en tout cas aux acheteurs.
Non,
donc ça veut dire que des bons dossiers qui normalement auraient été financés ne le sont plus. parce que du
exactement.
Coup, et qu'il y a peut-être des astuces à trouver, on va en voir tout à l'heure, mais on rappellera, si vous voulez bien, Maëlle Bernier, ce qu'est le taux d'usure, pour ceux qui nous écoutent, exactement. Parce qu'il faut quand même
être clair. Oui, parce que beaucoup entendent parler du taux d'usure.
Oui, mais fait... il faut quand même aussi rassurer ceux qui nous écoutent. On est sur une inflation à un peu plus de 5%, avec des taux d'intérêt, même s'ils ont été relevés à 1,65 sur 20 ou 25 ans, ça reste techniquement, quand on fait un peu d'économie, des taux d'intérêt négatifs.
Tout à fait.
Il faut quand même le rappeler.
On est 100% d'accord.
On va pas dire que tout ça pour dire que l'inflation c'est pas forcément ce qui va retarder ou annuler votre projet immobilier. Non, je voudrais qu'on revienne sur justement cette question qui est un peu la dent creuse dans le métier de l'assurance emprunteur. On en a beaucoup parlé ces 5 dernières années et encore plus en ce moment. Est-ce que ça vous arrive de voir des banquiers en disant voilà versus taux d'usure ça passe pas trop. Vous savez quoi? Trouver un délégataire d'assurance, et comme ça, votre dossier y passe. Est-ce que c'est ça l'astuce du jour?
Alors, j'adorerais vous dire que ça marche à tous les coups, mais ce n'est pas forcément le cas. Alors,
pourquoi?
Parce que, premièrement, les banques ne sont pas toujours super open à l'idée de prendre une autre assurance que la leur.
Oui. C'est amusant, ça.
Surtout qu'en plus, elles font leur marge.
Non, mais surtout, on parlait d'absence de marge. Alors, pour le coup, sur l'assurance emprunteur, il y a une très belle marge. Et puis, deuxièmement, alors, c'est vrai, vous êtes d'accord, hein, si vous avez une assurance qui varie du simple au triple, bah, dans un cas, ça peut passer sous l'usure, dans l'autre cas, ça ne passe pas.
Oui,
il est bien évident que nous, en tant que courtier, c'est quelque chose qu'on favorise, d'autant plus que nous, on a des personnes spécialisées.
Donc, ça arrive dans vos dossiers, c'est-à-dire que vous avez une banque qui fait le crédit, et à côté, vous prescrivez.
Bien sûr, mais de toute façon, c'est même dans le devoir de conseil, même sans qu'il y ait un problème de type d'usure, quand on a certains profils, on sait qu'ils ont tout intérêt à aller prendre une délégation et pas à rester dans l'assurance de la banque. Mais c'est effectivement un des... Pour être très clair, si vous avez 35 ans et vous êtes assuré en banque à 0,34 ou 0,35 et que vous avez à 100% et que vous avez une même assurance avec même garantie, parce que c'est ça la loi, c'est garantie équivalente, donc c'est pas un truc complètement folklorique non plus, vous pouvez être assuré à 0,12. Bah, 0,12, vous pouvez passer.
Mais alors, je continue la question de Sylvain. Est-ce que ce choix doit se faire au moment où on souscrit le crédit ou est-ce que maintenant qu'on a le droit de le faire tout le temps, globalement, on accompagne la banque sur l'assurance emprunteur sur les 2-3 premiers mois et ensuite, on change parce que globalement, on aura eu le meilleur des deux mondes.
Alors,
c'est une stratégie.
Vous êtes censé avoir le meilleur des deux mondes dès le début. Hein, mais on est d'accord. Mais alors, c'est vrai que quand on fait un crédit, souvent, vous pouvez avoir effectivement une banque qui soit un peu réfractaire et qui dise. Quand même, je fais beaucoup d'efforts. Je vous ai fait un très bon taux. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, la loi est telle que si. Dans 2 mois, et même dans 1 an et demi, et même sans date anniversaire, vous avez envie d'en changer, vous pouvez en changer d'assurance emprunteur. La loi Lemoine vient d'être promulguée, donc on est au mois de juin. Donc
là, c'est bon.
Voilà. Ouais. Donc là, c'est bon. Vous pouvez faire ça tout le temps.
Là, c'est la loi pour les anciens et les nouveaux crédits.
Alors, les nouveaux, c'est le 1er septembre.
Là, c'est pour ceux qui...
Mais vous pouvez commencer vos démarches. Hein. On est en juin, il n'y a pas de problème. C'est pas grave du tout. Ce qu'il faut voir, c'est que dans cette loi Lemoine, sans rentrer dans les détails, il y a eu des choses qui paraissent très positives, d'autres qui peuvent être positives. Mais un peu moins, en fait, ça par exemple la fin du questionnaire de santé. La fin du questionnaire de santé, c'est comme ça qu'une banque, enfin qu'un assureur tarifie votre risque.
Bien sûr.
Et c'est pareil pour une assurance auto. Quand vous avez une Porsche ou une Clio, vous n'êtes pas assuré pareil. Et ben malheureusement, quand vous faites un crédit, si vous avez 45 ans et vous êtes fumeur ou fumeuse, et que vous avez 30 ans et vous n'êtes pas fumeur, ben vous n'êtes normalement pas assuré pareil. Or, alors il se trouve que fumeur, on peut encore le voir, puisque c'est du déclaratif, c'est du comportemental. Mais si vous faites 90 kilos pour 1m60, on ne le voit plus.
D'accord.
Si vous faites, vous voyez, donc et du coup, ça entraîne déjà des hausses de tarifs sur les profits qui payaient moins cher.
Voilà, c'était
forcément.
Ma question. D'accord.
Bah, évidemment.
Ça coûte plus cher.
Et l'âge n'apporte pas forcément.
L'âge, c'est pas terrible. Puis voilà, il y a des trucs. Alors le tabac, c'est une pièce qui.
Il faut avoir l'âge de Nicolas pour emprunter.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça coûte plus cher.
Voilà. Exactement. C'est ça.
Alors, juste une petite question avant de repasser la parole à Sylvain. Maëlle Bernier, taux d'usure, on a dit qu'on allait le définir, effectivement. Donc. Je vais essayer de le définir, puis vous allez me dire si la définition est bonne. Alors, on prend ce qu'on appelle les TAEG, c'est ça, à savoir
le
TAEG, qui est la moyenne finalement des taux pratiqués par les banques sur les 3 mois précédents.
Non,
c'est pas ça. D'accord.
On prend le taux nominal qui a été pratiqué par les banques auparavant.
D'accord.
Auquel on va ajouter une marge de 30%.
D'accord.
Et du coup, donc le TAEG, c'est ça, en revanche, qui fixe le taux d'usure. C'est-à-dire qu'on va dire, il y a le taux nominal du crédit, il y a les assurances sur une ou deux têtes, la garantie.
D'accord.
Et tout ça, bah, aujourd'hui, ça ne doit pas dépasser 2,43 sur 20 et 25 ans.
Donc c'est le taux complet,
max,
finalement.
C'est le taux max auquel une banque peut vous prêter. Et elle ne peut pas passer à 2,44. Elle peut pas.
Oui, elle a pas le droit. C'est légal.
C'est légal. C'est,
elle a pas le droit.
C'est, oui. Certainement qu'on pourrait éventuellement vouloir le faire, mais légalement, c'est pas possible.
Donc, si je comprends bien, on peut avoir un très bon taux de crédit immobilier, mais une assurance tellement élevée qu'on passerait pas.
Alors, je vais même être pire que ça, c'est qu'aujourd'hui, avec les barèmes qui sont pratiqués par les banques, qui sont encore une fois autour de 1,65 à 70 sur 20 ans, si vous mettez deux assurances, je parlais de 0,34 moyen tout à l'heure, j'ai fait un calcul, 200 000 euros sur 20 ans, vous ajoutez une garantie type crédit logement, vous êtes à 2,44.
Ah oui,
ça passe pas. Voilà, donc ça passe pas.
À quel taux, 1,65. Taux de base 1,65, effectivement, sur 20 ans.
Et l'assurance à 0,34 sur chaque tête, donc c'est plutôt des moins de 40 ans, que j'assure qu'à 50%. Sur chaque tête, ce qui n'est pas forcément le meilleur choix, parce qu'en général, on assure le plus gros salaire à 100%. Et voilà. Donc, on en est là. Hein.
C'est quoi la solution, Maëlle Bernier ? Est-ce que très clairement, j'ai pris un chiffre comme ça, 2021, 240 milliards d'euros prêtés par les banques.
Ouais.
C'est un considérable. Est-ce que, sans faire de provoque, on n'a pas sifflé un peu la fin de la récré ?
Ah, je pense que le HCSF a voulu signer la fin de la récré.
Parce que là, ça fait 15 ans que ça va bien, on va
prétextant
dire.
Prétextant voilà. Le fait qu'on allait protéger les Français contre eux-mêmes, contre leur endettement. Donc, en gros, c'est très bien. Parce que ce qui est assez choquant dans cette histoire, c'est que les plus âgés, les plus argentés, eux, ils ont toujours leur recours à l'emprunt sans problème. Les plus jeunes, sans épargne, eh ben, eux, ils vont rester locataires.
On parle des primo-accédants, notamment. Primo-accédants. Alors, justement, est-ce que vous avez des statistiques là-dessus ?
Alors, nous, on a une baisse.
Quel est l'impact qui a désolvabilisé des projets qui auraient été finançables il y a 2 ou 3 mois ?
Chez Meilleur Taux, on était autour de 70% de primo-accédants. On est plutôt à une moitié maintenant. On est passé de 70 à 50%, bien sûr. Et il y a une autocensure aussi qui se fait. Et il faut savoir que si vous avez, en gros, un point de taux, si en gros les taux remontent d'un point, vous savez que vous perdez à peu près 10% de finançable. Donc, et ces finançables, ils sont principalement...
Donc vous lancez dans la vie, vous payez des impôts, mais vous n'avez plus les moyens de vous loger aujourd'hui.
Ce qui est assez choquant, parce qu'il faut quand même le rappeler, dans beaucoup
choquant,
de villes de région, je pèse mes mots, dans beaucoup de villes en région, en province, vous achetez au même prix que vous louez. Hein. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ok, tu peux rester locataire, tu payes 3 fois.
Oui, donc c'est pas un sujet de pouvoir d'achat.
Voilà, non, c'est pas un sujet de pouvoir d'achat, parce qu'on est très... Paris, il y a Paris, et puis il y a le reste du monde. Et dans beaucoup de villes de France, acheter ou louer, c'est la même chose. Vous voyez, c'est plus, quand vous louez, on vous dit 800 euros de loyer, ok, 3 fois 8, 24. Donc, c'est le même ratio qu'en crédit. Sauf que dans un cas, on l'accorde, dans l'autre cas, on ne l'accorde pas.
Donc, vous financez des retraites, mais derrière, vous ne pouvez pas vous loger. Désolé.
Il y a un vrai problème de génération. Il y a une vraie... Ouais. Enfin, moi, je veux dire encore d'autant plus que je suis un peu plus âgée, mais je trouve ça hyper choquant. On est en train de bloquer des trentenaires finançables.
Avec l'annonce du gouvernement et une absence totale de politique de logement pour l'instant.
Mais il y a aussi ces législatives qui arrivent et
on va espérer.
Le taux d'usure ne peut, à mon avis, malheureusement pas être révisé tout de suite.
Alors, on s'est dit avec Nicolas qu'on allait profiter de votre passage sur la Côte Immo pour avoir des astuces, des conseils.
Exactement, oui.
Alors, voilà. Comment vaut son dossier ?
On voulait vous demander, on s'était dit avec Nicolas, quels seraient les 3 conseils à donner à ceux qui nous écoutent pour essayer d'optimiser leur projet compte tenu de la situation ?
Alors,
la bonne astuce.
Le premier, c'est d'anticiper vraiment plus qu'avant. C'est-à-dire que vous faites un calcul d'enveloppe et surtout, si on vous dit, vous êtes finançable, on peut vous financer 200 000, partez sur un budget à 190. Hein.
Ah oui,
d'accord. Parce que
en fait, d'emblée, vous enlevez des
conseils. Mais parce que c'est de la prudence.
Ça aide.
Okay,
évidemment, on ne signe pas de trucs sans condition de
suspensive.
D'accord. Pourtant, c'est un argument aujourd'hui pour acheter des biens de qualité à Paris.
Je pense que c'est assez risqué, ouais. C'est très risqué.
D'accord, c'est fini.
Ça, c'est rare, ça, quand même.
Ça se fait beaucoup à Paris.
Oui, oui.
Ça se fait beaucoup. Anticiper l'assurance emprunteur, mais en amont du projet.
Ouais.
Vraiment, c'est pas grave d'anticiper.
Le tuyau de la diviser, de dire voilà, je viens avec la banque et je fais une délègue.
Ah non, ça marche pas ça. Et puis après le consigne de base, c'est mettez-vous clean sur vos comptes en banque. Le banquier il voit tout. Hein. Les 3 mois qui ont précédé, il sait exactement ce que vous avez fait, de la fiesta à Deauville, les fringues, tout. Tout est écrit sur le compte en banque.
Zut.
Donc on se met clean pendant les trois mois. C'est pas dur. Et on rembourse les petits crédits qui pourraient traîner, les petites queues de crédit qui pourraient traîner et qui font mauvais genre et qui grèvent l'endettement.
Donc sobriété sur le budget, effectivement.
Voilà,
effectivement. En tout cas, si on va emprunter vis-à-vis de son banquier. Merci beaucoup, Maëlle Bernier. Alors vous restez avec nous. On va vous donner le chiffre du jour, Sylvain. Le chiffre du jour, c'est 19 ans et 7. 7 mois.
Oui, 19 ans et 7 mois, c'est la durée moyenne d'un crédit en 2021. Je ne sais pas si vous avez vu les résultats de l'Observatoire du Crédit Logement CSA, qui avait fait une durée sur, en comparant, en fait, depuis une vingtaine d'années. La durée était de 13 ans et 6 mois en 2001, malgré les prix qui sont en hausse constante, hein, on va finir par atteindre les étoiles, quasiment dans toutes les grandes métropoles, les Français s'endettent pour des durées de plus en plus longues. C'est là qu'on voit
les injonctions. Mais aussi parce que les taux sont plus bas.
Portés, bien sûr, par une embellie. La tension actuelle sur la remontée des taux et un ralentissement de la hausse des prix endiguera-t-elle l'explosion de la durée, et notamment les durées de crédit. Les semaines et les mois à venir seront à suivre avec beaucoup de vigilance, Nicolas.
Et justement, ça fait la transition pour la deuxième partie de cette émission. Merci tout d'abord, Maëlle Bernier, d'être venu sur le plateau de La Côte Immo. Et on enchaîne tout de suite avec l'Expert Immo, où nous parlerons de niveau de prix en matière d'achat immobilier.
De retour, effectivement, pour l'Expert Immo, justement, tendance du marché. Les prix de l'immobilier ne cessent de grimper. Jusqu'où iront-ils? Ils sont toujours plus hauts et quasiment dans toutes les grandes métropoles. Ce refrain, nous l'entendons tous les jours, depuis plusieurs mois, même depuis plusieurs années. Mais qu'en est-il des prix de l'immobilier avec l'inflation qui revient, un pouvoir d'achat, on peut le dire, en berne, qui affecte tous les ménages, quelle que soit leur classe sociale? Décryptage des prix au premier semestre, c'est notre sujet tendance de La Côte Immo, avec toujours Nicolas Panier.
Bonjour Sylvain.
Et nous accueillons ici quelqu'un que je connais bien, parce que je l'ai eu souvent sur les plateaux, qui nous éclaire de ses lumières et de son expertise. Il est notaire à Paris, Thierry Delsalle. Bonjour.
Bonjour.
Alors Thierry Delsalle, vous êtes notaire à Paris, vous êtes président de la commission conjoncture immobilière au sein de la Chambre des notaires de Paris. D'ailleurs, vous avez publié une étude extrêmement intéressante sur la région francilienne, y compris Paris, extrêmement intéressante. Et comme c'est l'usage dans La Côte Immo, la première question vous est posée par Nicolas.
Bonjour Thierry Delsalle, vous allez peut-être pouvoir me rassurer. On a passé une quinzaine de minutes en première partie d'émission.
C'est
où
on
n'était expliqué...
pas hyper... on n'était pas hyper rassuré.
On n'était pas hyper rassuré.
Je vous sens chaud bouillant là.
Ah oui, bah écoutez, première partie d'émission, on m'a expliqué que globalement, quand on a 30 ans aujourd'hui en 2022 en France, on n'est pas sûr de pouvoir emprunter si on veut faire une première acquisition, ou en tout cas pas forcément au niveau suffisant vis-à-vis des prix. C'est d'ailleurs la question que je vais vous poser. Qu'on paye son assurance emprunteur un petit peu plus cher justement parce qu'on paye pour ceux qui sont peut-être en moins bonne santé plus tard, et que les normes HCSF et la pratique du taux d'usure dans les banques, qui est réglementaire pour le coup, ne va pas améliorer notre pouvoir d'achat à venir quand on est primo-accédant. J'ai envie de vous demander, est-ce que au moins les prix vont baisser pour me permettre d'acheter un appartement plus facilement dans quelques années, Thierry Delsalle?
Oui, alors faut pas rêver.
Faut pas rêver, ça commence bien.
Mais où?
Je vais sortir de cette émission angoissé.
À Paris, de France.
Non, il y a une pause en ce moment à Paris, donc ça c'est parfait, c'est génial, depuis 2 ans, la pause est là. Je sais pas si ça va durer.
D'accord.
Ça c'est bon, c'est peut-être c'est la fin de l'émission. Savoir qu'est-ce qu'on attend comme prix à Paris dans les prochaines années. Mais c'est vrai que là aujourd'hui il y a une pause, ce qui fait que ça fait revenir beaucoup d'acquéreurs.
D'accord.
Et on est dans des super volumes à Paris, des très bons volumes, alors qu'on approchait environ 30 000 transactions par an à Paris, ce qui était très très faible. Et généralement mécaniquement quand on passe la barre des 30 000, les prix, alors là, ils dévissent. Mmh. Enfin, ils dévissent. Ils baissent beaucoup. Là, on est vraiment dans de la correction cosmétique.
D'accord.
Mais qui a suffi à faire revenir les investisseurs. Et aujourd'hui, on est à 37 500 transactions sur un an.
Ah oui, quand même.
Ce qui est quand même un bon cru.
Bien sûr. Ouais.
Voilà. Donc ça, c'est... Mais je ne réponds pas à votre question.
Non, mais ça veut dire qu'en fait, si on regarde le marché parisien, il y avait moins de volume, mais des prix qui augmentaient. Et là, comme les prix augmentent moins, on ne va pas dire qu'ils diminuent.
Ça fait revenir
les acheteurs.
Ouais, ça fait revenir les acquéreurs. Beaucoup d'investisseurs.
D'accord.
Des investisseurs qui avaient fait des plus-values en bourse assez importantes. Et curieusement, ils n'ont pas acheté des studios de pièces, ils achetaient plutôt des 3, 4, 5 pièces.
Ah, donc ils ont fait des belles plus-values quand même. Ah,
ils faisaient des très belles plus-values.
Comment vous savez qu'ils ont fait des plus-values en bourse et qu'ils achètent cash?
On leur pose la question.
Ouais, d'accord. Ouais, okay. Ouais,
ouais. Donc ils achètent cash, ou alors ils font le système où on emprunte et puis on met l'argent de côté en espérant d'être gagnant sur les deux tableaux.
Bon, en tout cas, ils n'ont pas l'angoisse de savoir s'ils vont pouvoir emprunter suffisamment pour acheter un appartement. C'est ce que vous
cela, non.
Cela, non. D'accord, mais ce n'est pas l'intégralité.
Cela, on va dire, ça va.
Oui, cela, ça va, effectivement.
Ils sont dans la pierre coffre-fort. On diversifie le patrimoine.
D'accord.
C'est ce qui s'est un peu passé vraiment.
Oui, parce que vous avez dit, c'est des investisseurs, effectivement, ils n'achètent pas pour y vivre.
Ouais.
Oui, c'est de l'immobilier de conservation.
Oui, à Paris, c'est.
Parce qu'en termes de rentabilité, c'est quand même assez faible.
Ah, c'est très faible.
Ils ne cherchent pas de la rentabilité, ces personnes-là.
Non.
Ils cherchent finalement à placer un argent sûr dans lequel ils diront on ne sera pas lié au soubresaut de la bourse ou d'autres supports de placement. Ça veut dire quoi, Thierry Delsalle, que finalement Paris reste toujours aussi bankable pour l'immobilier de conservation et le placement à long terme?
Bah, il faut croire, hein, quand on regarde vraiment ce qui s'est passé l'année dernière, oui, et quand on leur pose la question aujourd'hui, ils ne cherchent pas le rendement. Ils cherchent vraiment, ils savent que la pierre parisienne est une pierre de sécurité. Mais c'est, j'ai envie de dire que les Français en ce moment, pas face à l'immobilier, ils ont le même réflexe. Quand ils vont acheter aujourd'hui, ils sont dans une pierre sécurité, pierre refuge, parce qu'ils se disent bah, c'est en fait le seul moyen aujourd'hui de contrer l'inflation.
Ouais, donc, mais, oui.
Et l'histoire, et l'histoire leur donne raison.
Et c'est vrai, oui, c'est, oui, c'est vrai.
Placement
c'est vrai, c'est sans appel. Hein, sur les 40 dernières années, les performances immobilières sont le solde.
C'est le placement anti-inflation.
C'est sans appel, mais quand on regarde certains niveaux de prix à Paris, on peut se poser la question de savoir si ça va pas, enfin, si ça ne peut pas mécaniquement baisser dans les prochaines années, quand on est à 12, 13, 15 000 mètres.
Thierry Delsalle, ça ne peut pas finalement monter à ce point-là. Parce qu'on va se retrouver qu'avec des investisseurs titulaires de biens ou propriétaires de biens dans Paris, il n'y aura plus aucun Parisien. Les classes moyennes vont disparaître. Remarquez, elles ont déjà commencé à fuir.
Oui, et Paris est une ville de locataires. Il ne faut pas oublier que c'est 60% des Parisiens sont des locataires. Donc aujourd'hui, Paris
et 60% parce que
un parc privé, un parc public pour quand même.
Oui, mais ils sont locataires par défaut, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété.
Oui, alors on a constaté qu'en fait, dans les acquéreurs parisiens, 75% des acquéreurs sont déjà parisiens. C'est vrai que pour être acquéreur ou pour acquérir à Paris, il faut déjà avoir, faut commencer en fait chambre de bonne, studio, deux pièces.
Il faut faire la culbute.
D'accord. Ouais, c'est ça.
Il faut.
On ne peut pas acheter sa résidence.
On ne peut pas acheter quatre pièces d'un seul coup.
Ah, d'accord. Okay.
D'accord.
Bon, je reviens sur la question initiale.
Je ne sais pas, vous habitez un studio à deux pièces aujourd'hui?
Pour l'instant, à deux pièces, mais bon.
Deux pièces, c'est entre 250 et 300 000 euros.
Il y a un sujet. Alors, justement, vous avez parlé des prix. J'ai vu dans votre étude, on a fait un petit peu un mapping. On trouve encore. Et ça, c'est vraiment très palpable dans votre étude, des prix au-dessous des 10 000 euros du mètre carré.
Oui.
Alors qu'on s'était clairement habitué à avoir des prix très au-dessus du mètre carré, des 10 000 du mètre carré, puisqu'on trouvait des prix à 10 000 euros du mètre carré dans des quartiers de Paris où on n'aurait jamais imaginé pouvoir acheter ce prix-là. Clairement, ces arrondissements sont lesquels? Et comment on peut expliquer finalement cette baisse? Est-ce que quelque part, il n'y a pas quelque chose qui va, on va dire, corriger avec l'incertitude politique peut-être, l'incertitude aussi de l'inflation et de l'économie, parce qu'on a quand même une rentrée sociale qui est annoncée, qui, à mon avis, va être musclée. Est-ce que tout ça aura un impact sur les prix des grandes métropoles?
Alors, Paris, déjà, il faut comprendre que sur 20 ans, Paris, c'est boboisé. Hein, et donc, en fait, vous parliez d'un écart de prix. On parle toujours d'une moyenne. Les 10 500 euros, c'est une moyenne parisienne.
Oui, bien sûr.
Et ça fait longtemps qu'il y a 4, 5, 6 arrondissements qui sont en dessous des 10 000. Et qui n'ont pas passé.
Lesquels, par exemple, le
18, vous avez 18, 19, 20, le 12. Voilà. Bon, donc,
alors, 18, 19, 20, je peux vous citer des quartiers où on est au-dessus de 10 000, voire au-dessus de 11 000.
Mais oui, mais
c'est
sur des moyennes.
C'est pas tout l'arrondissement,
non,
c'est vrai.
Bien sûr, c'est des
moyennes. Oui, effectivement.
Et en fait, il y a 20 ans, l'écart entre l'arrondissement le plus cher, qui était le 6e, et le 19e, qui est toujours le moins cher, c'était du 2,5, l'écart. Aujourd'hui, il est de 1,53. Donc, pour vous dire c'est que ceux qui, depuis 20 ans, ont le plus monté, là où il fallait avoir investi il y a 20 ans, c'est dans les arrondissements populaires,
oui,
18, 19, 20.
Oui,
bien sûr.
Parce que, et quand je vous dis que Paris s'est boboisé, s'est gentrifié, c'est ça, c'est qu'il y a vraiment des écarts. Vous avez des villes où vous investissez, c'est de 1 à 4 encore. Hein, comme à Londres, comme à New York aussi, vous avez des écarts considérables. Aujourd'hui, à Paris, c'est plus ça.
Mais alors,
parce que Paris est enfermé dans son périphérique.
Oui, non, mais c'est justement, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de bonnes affaires à Londres, puisqu'il y a un rapport de 1 à 4, ou il y a au contraire, Paris monte globalement, donc ça reste un bon investissement?
Et Paris reste d'ailleurs toujours aussi attractif, on le voit.
En fait, la superficie de Paris est petite. C'est-à-dire que quand on parle de Londres, Paris et Londres, c'est simplement deux. Comment on les appelle? À Londres, ce sont des boroughs. Enfin, je ne me souviens plus le terme en français.
Des quartiers, non?
Ouais, c'est des gros quartiers.
Des gros quartiers, oui, bien sûr, des districts. Oui.
C'est Westminster. Et donc, quand on compare Londres et Paris, il faudrait intégrer, en fait, carrément toute la petite couronne. Pour
d'accord.
être à peu près en superficie égale. Donc, en fait, il faut parler du Grand Paris. Et le Grand Paris, quand on intègre toutes les
statistiques... C'est intéressant de parler du Grand Paris, enfin.
Ouais. Oui, quand on intègre les statistiques du 92, 93, 94, là, on ne parle plus de la même chose. Et les prix continuent un peu à monter. en petite couronne.
D'accord.
Alors qu'à Paris, c'est stable.
Justement, dans votre analyse, vous avez, en plus, vous avez des référents, hein, vous avez des notaires référents dans chaque ville,
oui.
dans chaque département. Alors, c'est extrêmement intéressant. Je vous encourage vraiment à
voir public.
Ces études. Oui, oui. Elles sont publiques, elles sont en open data. On l'a d'ailleurs téléchargé et on y assiste, nous, régulièrement à Radio Immo. Et vraiment, vous êtes d'une finesse extrêmement intéressante et ça complète toutes les données actuelles. Alors, justement, on observe qu'effectivement, première, deuxième couronne, ça reste une belle alternative pour les familles.
Oui.
Pour les familles. Et on voit, en fait, qu'ils n'hésitent pas, finalement, à passer le périph, effectivement. Vous avez raison, quand vous parlez du périph, ça en sert Paris, parce qu'on ne sait pas assez, mais ça, je pense que vous le savez, Thierry Delsalle, que Paris est la ville la plus dense au monde après Bombay. Mmh. Donc,
surtout le 11e.
Voilà. Donc, c'est incroyable, mais vrai. Mmh. Et ça étonne toujours. Est-ce que ce mouvement va s'accentuer? Est-ce que tout ça n'augure pas, finalement, dans votre analyse, au fait que, de toute façon, Paris deviendra le Grand Paris, tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire avec la première et la deuxième couronne?
Alors, j'intégrerai pas la deuxième couronne, parce qu'en fait, la deuxième couronne...
Vous intégrerez... Ah bon ?
Ah non, la deuxième couronne, pour moi, elle est vraiment... Elle réagit comme la province.
Vous voulez dire que ce sera la zone tampon, finalement, par rapport au Grand Paris ?
Oui, oui. Puis d'ailleurs, quand on voit le réseau ferroviaire du Grand Paris, parce que c'est ça, en fait, ce réseau circulaire du Grand Paris, il y a, sur les 60 gares, il n'y a que 5 ou 6 gares qui sont dans la grande couronne. Et la grande couronne, en tout cas en matière immobilière, aujourd'hui réagit depuis 2 ans exactement comme la province. C'est là où il y a des fortes augmentations de prix.
D'accord.
Alors que petit à petit, quand on se rapproche du cœur de l'Île-de-France, eh bien, les augmentations du prix sont moins fortes, sauf les maisons de petite couronne. Mais les maisons de petite couronne, c'est tellement un marché à part, tellement un marché restreint que... on pourra en parler, mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que le Grand Paris se construit parce que les gens n'hésitent plus du tout depuis 2 ou 3 ans à franchir le périph pour aller investir en petite couronne. Ça y est, c'est fait. Là aujourd'hui, le périph, la frontière du périph, à mon avis, s'est envolée pendant le Covid.
Et alors,
il était temps.
Il était temps, ouais, c'est ça. Oui, parce que ça, c'est plutôt à votre avantage, Sylvain, oui, bien sûr.
Je suis en première couronne.
En première couronne, ça va.
J'étais avec
encore
un de vos collègues, là, qui me disait qu'il habitait dans le 18e, et bien ça y est, il était allé habiter Saint-Denis.
D'accord.
Pourquoi ? Parce qu'il voulait la pièce pour le télétravail, parce que journaliste,
ça vient.
Il en avait marre de faire ses interviews dans sa cuisine avec les gosses à côté.
C'est un vrai questionnement. Aujourd'hui, on veut la pièce pour le télétravail, on veut le local à vélo quand on est dans Paris, puisqu'effectivement, les transports, c'est de plus en plus compliqué. Je reviens à ma question initiale sur les quelques secondes qui nous restent. Les prix vont-ils baisser ? Si j'ai bien compris, globalement, Paris, première couronne, non, ça ne baissera pas.
Je ne pense pas. Et là, pour plusieurs facteurs, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde a envie de déménager. Ce n'est pas encore terminé. Hein, depuis le Covid, vraiment, c'est la planète entière qui déménage. Et vous avez des augmentations à l'étranger de 20%. Donc la France est un pays qui monte, on va dire, qui est à peu près sage. Alors de là à s'attendre à des baisses de prix, je ne crois pas. Alors, surtout pour Paris, où en fait, maintenant, les étrangers sont revenus. Depuis un an, les étrangers reviennent et souvent, quand ils reviennent, ils tirent, même si c'est sur un petit secteur, tout petit secteur du luxe, bah, ils tirent les prix vers le haut.
Merci Thierry Delsalle. C'est à moitié rassurant, c'est-à-dire que si en fait la complexité, c'est d'accéder en fait à la propriété, puis après globalement, on est plutôt tranquille de ce que je comprends, en tout cas vis-à-vis de la valeur de son bien. Merci Thierry Delsalle. Je rappelle que vous êtes notaire à Paris et président de la commission conjoncture immobilière au sein de la Chambre des notaires de Paris. Merci.
Mais vous parliez d'avenir, si je peux rajouter
bien
quelque
sûr,
chose.
Très rapidement.
C'est simplement, je crois qu'on va revoir les aides parentales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ont beaucoup épargné pendant le Covid. Et aujourd'hui, il y a quand même, il ne faut pas l'oublier, c'est 32 000 euros exonérés, plus 100 000 par parent, par enfant. Et donc, c'est malheureux de se dire que les jeunes ne pourront plus accéder
au crédit, au financement des banques.
C'est ce qui s'est passé avant.
Je vais devoir conclure, malheureusement.
Allez-y.
Effectivement, on pourra en reparler. Effectivement, on voit donc l'aide parentale qui prend le relais peut-être sur un certain nombre de financements. Bah, c'est la fin de cette Côte Immo, Sylvain, et on se retrouve demain pour un nouveau numéro.
Merci.